Sud Radio Sarroul, midi, midi 30, Pierre Chasseret.
Pour notre Sarroul hebdomadaire, on va prendre la route ensemble pendant que l'équipe de France de judo est en train de concourir pour la médaille d'or. Elle mène 2-0. Il faut arriver à 4. Voilà, pour le contre le Japon en finale de ces Jeux Olympiques. Mais nous, on va parler voiture et vélo dans quelques secondes avec notre invité qui nous parlera des dernières innovations en termes de cycle. Et puis, on passera sur quelque chose, un outil que vous avez peut-être dans votre voiture en ce moment, un GPS. On va vous expliquer comment ça fonctionne et surtout, comment partager votre data, vos données numériques. Ce sera tout de suite dans Sarroul. Vous restez bien avec nous. On enclenche la première et c'est parti.
Sud Radio, ça roule.
Et pour notre premier invité, j'accueille Grégory Géret. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Grégory, vous êtes le responsable communication, marketing notamment, d'un événement qui s'appelle les Pro Days. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer à parler vélo dans sa roule. Les Pro Days se tenaient il y a quelques semaines maintenant, quelques jours. Et ces Pro Days permettent de connaître toutes les dernières innovations en termes de cycle et de deux roues qui a le vent en poupe en ce moment. On va être clair, hein, Grégory.
Ah oui, tout à fait. C'était le salon qui a lieu il y a 15 jours à Porte de Versailles à Paris. C'est un salon qui se destine qu'aux professionnels du monde du vélo, donc c'est un moment important pour tout le marché qui se réunit et on découvre un peu tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y aura dans les magasins sur la saison à venir.
Alors qu'est-ce qui va se passer dans l'univers du vélo? Je pense à tous ceux qui regardent ça un petit peu, tant sur le domaine sportif, parce que c'est une passion pour beaucoup, et aussi pour se déplacer, parce que le vélo, encore une fois, elle vend en poupe. Il faut s'attendre à quoi en termes d'innovation, d'évolution?
Exactement, je pense qu'il y a eu le boom avec l'effet Covid et la ruée vers le deux roues et le vélo notamment. Sur la partie urbaine, il y a eu beaucoup de choses sur la partie vélo électrique notamment, sur des vélos qui sont de plus en plus légers, qui sont de plus en plus autonomes. J'entends autonomie avec des batteries qui vous permettent d'aller plus loin, qui vous permettent de faire plus de choses, etc. Donc il y a une énorme progression sur cet aspect-là.
On ne sait pas trop comment ça fonctionne, cette histoire de vélo électrique. Comment ça fonctionne? On a de l'autonomie, c'est dangereux?
Alors, c'est simple. Hein, c'est pas une mobilette, hein, c'est-à-dire c'est pas un bouton et ça avance tout seul. Il faut qu'il y ait un vélo à assistance électrique. Donc, concrètement, il faut appuyer sur les pédales. Il y a un capteur au niveau du boîtier de pédalier qui enclenche du coup une... l'assistance qui vous accompagne dans votre mouvement. Et derrière, il y a un ordinateur de bord. Vous allez pouvoir ajuster le niveau d'assistance. Et en fonction de ça, bah, vous avez une assistance plus, une assistance moyenne ou une assistance classique qui vous permet d'avoir un effort un peu moins important et justement de profiter davantage, d'arriver au travail en étant penseur.
Ça joue beaucoup.
Et puis ça permet aussi de découvrir sa vie, de découvrir plein de choses différemment. Et ça permet à plus de monde d'aller sur le vélo. Et ça, c'est un gros plus.
Vous pensez pas qu'il faut une formation pour ce type de vélo, notamment pour une population qu'on n'a pas fait depuis longtemps? Parce que savoir faire du vélo, c'est comme savoir conduire en voiture. C'est pas juste tourner un guidon ou tourner un volant. C'est un peu plus complexe que ça. Est-ce que ce type de vélo électrique nécessite un moment de prise en main spécifique, ou est-ce que n'importe qui peut monter dessus comme ça?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécifique. Je pense que c'est comme tout. Après, il faut y aller par étapes et progressivement. Le vélo n'est pas plus compliqué ou quoi que ce soit à manier. Donc, faut s'y habituer. Donc, forcément, par étapes, c'est aussi la responsabilité de chacun d'y aller un petit peu doucement au début. Mais il n'y a pas de difficulté majeure. Donc aujourd'hui, allez-y, il n'y a pas de peur à monter sur un vélo électrique. C'est un vrai bonheur. Et comme je disais, le fait d'avoir des vélos de plus en plus légers, de plus en plus maniables, fait que ça devient très facile et très ludique pour tous.
Et quelles innovations à venir alors en termes de vélo? Tout va être basé, je pense, sur l'électrification, sur l'assistance électrique.
Il y a de tout, parce que heureusement, il n'y a pas que le vélo électrique non plus. Hein. Il y a tous les segments, j'entends segments, tous les différents types de vélos ont beaucoup évolué dans leur conception, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, gros levier, c'est sur la partie du poids et la partie encombrement. Aussi, il y a beaucoup de spécificités sur les vélos pliants. Je pense à ces vélos-là qui se développent beaucoup en ville. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appartement très très grand. Donc forcément, transporter son vélo au dernier étage, c'est toujours un plus. Mais un vélo qui fait 20 kilos, c'est pas évident. Donc si on gagne du poids, si on gagne de la facilité dans le pliage, on fait en sorte de mettre plus de gens sur les vélos. Donc c'est sur cette partie-là, les innovations, le poids, l'intégration et essentiellement.
Oui, alors j'ai vu sur le vélo sportif, notamment pendant longtemps, on a abaissé le poids des vélos avec des matériaux, l'aluminium, puis le carbone. Et aujourd'hui, on en arrive à un niveau de poids du vélo qui doit être réglementé, notamment dans le sport professionnel, parce qu'on est presque capable, on est capable de faire des vélos encore plus légers, sauf que ça poserait des problèmes de sécurité.
Exactement. Alors sur l'aspect pro, on l'a vu pendant le Tour de France, la majorité des coureurs ont des freins à disque. Donc, ça reprend le système de VTT qui existe depuis maintenant 25 ou 30 ans. C'est un freinage qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rassurant. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable pour une bonne pratique sur la route, concrètement. Mais derrière, au niveau de la réglementation pour le sport et le sportif professionnel, on interdit les vélos inférieurs à 6 kg 8. Donc ça, c'est la limite pour les professionnels. Donc aujourd'hui, on retrouve des vélos plus légers, mais qui seront pas autorisés en compétition. Voilà, on arrive à faire des vélos haut de gamme aujourd'hui autour de 6 kg 5, 6 kg en vélo à disque. Donc ce qui reste assez exceptionnel, parce qu'on considère que l'apport des disques alourdit le vélo d'environ 500 grammes à peu près. Donc, ça reste des vélos très légers.
Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment génial sur le vélo, parce qu'on sent qu'il y a aujourd'hui une innovation technologique qui est au-delà de ce qu'on aurait pu peut-être imaginer. Quel conseil vous donneriez à tous ceux qui aujourd'hui ont envie peut-être de basculer sur un vélo? C'est quoi le bon conseil, le bon outil? Ça coûte combien un vélo d'approche pour pouvoir se promener gentiment?
Il y a tous les budgets, je pense que c'est la force du marché. Pour moi, l'important, c'est de partager avec des professionnels du milieu. On a beaucoup de choses sur Internet. C'est une bonne chose d'avoir, ouais, d'avoir beaucoup de ce qu'on appelle des pure players, des gens qui ne vendent que en ligne. Mais je pense que l'important, c'est aussi de partager avec des professionnels sur quel est mon usage, qu'est-ce que je veux faire avec mon vélo, où est-ce que je veux aller. Ça, c'est pas forcément évident, parce qu'aujourd'hui, les vélos, et il y en a tellement, que pour trouver le bon, c'est pas forcément évident. Et puis après, l'autre aspect qu'on néglige souvent, c'est la position sur votre vélo. Parce que concrètement, un vélo qui va être trop grand, un vélo qui va être trop petit, forcément, on va pas avoir envie de retourner dessus. Alors, la première des choses à faire, c'est trouver le vélo qui vous va en taille. Et ça passe par un test et par aller en magasin. Je pense que c'est la priorité de trouver son vélo à son pied, on va dire ça comme ça.
Voilà. Mais la taille du cadre, hein, essentiel aussi si vous avez des enfants. Je suis bien placé pour vous en parler. Lorsque vous choisissez un vélo pour votre enfant, il faut que le cadre soit vraiment à sa juste hauteur, parce que sinon ça peut être tout simplement dangereux.
C'est exactement ça. C'est le nerf de la guerre. Si vous faites 1m80 et vous avez un vélo pour quelqu'un d'1m60, c'est quelque chose qui ne va pas aller. Et pour un enfant, c'est encore pire, parce que les écarts sont là. Donc il faut vraiment tester, monter sur le vélo, et puis le feeling, il sera là, ça sera comme ça.
Eh bien, Grégory Gérel, merci d'avoir été avec nous dans Sa Route.
Merci à vous.
C'est un plaisir de vous entendre parler de vélo, et notamment des Pro Days. Sans doute, oui, ça va donner envie à tous ceux qui nous écoutent, peut-être d'aller se choisir un vélo pour ce mois d'août, qui s'annonce peut-être un petit peu beau, j'espère, parce que la première partie de l'été était quand même pas fantastique si vous étiez dans la moitié nord de la France. Merci Grégory d'avoir été avec nous dans Sa Route.
Merci.
Allez, bonne journée, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite ensemble pour parler de votre GPS dans la voiture. Vous restez bien avec nous.
Sud Radio, ça roule, midi 30, Pierre Chasseret.
Allez, on est encore ensemble pour quelques dizaines de, pour une dizaine, grosse dizaine de minutes. Et on va parler notamment de votre GPS avec mon invité, alors que nous comptons actuellement plus de 846 km de bouchons ce samedi sur les routes. Bonjour Carlo Zou.
Bonjour Pierre Chasseret.
Alors, heureux de vous avoir avec nous. On vous connaît bien si on écoute Ça Roule. Vous êtes notamment un développeur d'outils connectés, d'un éthylotest connecté qui a remporté le prix d'innovation de la sécurité routière, Good Angel, une assurance automobile dédiée notamment aux jeunes conducteurs, Good Deal. Et vous développez tout un tas d'outils de connectés suffisamment pour nous expliquer à nous tous qui circulons dans notre voiture, là, un GPS. Comment ça fonctionne, Carlo Zou?
Alors, un GPS, c'est une application qui est en effet soit embarquée sur un smartphone, soit dans votre véhicule, et qui va aller interroger la galaxie des GPS qui sont aujourd'hui, qui tournent autour de la France en permanence, enfin, autour de la Terre, pardon, en permanence, et qui va, ce GPS, vous donner une position en instant T. Cette position en instant T va vous permettre de définir une trame de trajet si vous souhaitez d'aller d'un point A à un point B. Et on a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, ces 15-20 dernières années, avec aujourd'hui des services en temps réel qui vont arriver à s'afficher sur la map, donc sur le plan, et vous délivrer un certain nombre de services qui vous seront utiles et qui permettront également d'assurer votre sécurité en mobilité.
Alors maintenant, on a des offres de GPS qui fonctionnent en temps réel, c'est-à-dire qu'on nous donne exactement la route à emprunter pour gagner du temps à un instant T. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que la donnée remonte de tous les utilisateurs connectés?
Alors la donnée remonte de tous les utilisateurs connectés, ce qui permet notamment d'identifier les kilomètres de bouchons aujourd'hui. Et puis à cela s'ajoutent des services qui vont venir s'empiler les uns au-dessus des autres, dont ce que l'on appelle notamment l'information trafic. Et cette information trafic, elle est délivrée et l'une par des véhicules qui remontent une donnée sur des serveurs et qui vont permettre de l'analyser, de la retranscrire et de l'envoyer à l'ensemble des personnes qui sont sur cette trame de trajet. Mais vous avez également des capteurs dans la chaussée, des caméras et un certain nombre d'autres dispositifs qui permettent comme ça d'affiner l'état du trafic et de pouvoir aussi vous permettre sur des GPS qui sont très évolués un déroutage pour aller vers une voie qui sera moins encombrée, qui vous permettra d'avoir un trajet plus agréable.
Quoi qu'il arrive, on le voit bien, 846 km de bouchons en ce moment. On n'est plus dans les records d'il y a quelques années où on passait les 1000, où on approchait les 1000 km. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus, alors qu'on a davantage de véhicules sur les routes, notamment cet été où les Français partent en France. Est-ce que cette amélioration, alors attention, ceux qui sont dans les bouchons actuellement, ils ont envie de nous couper la tête, hein, mais est-ce que cette amélioration des temps de parcours, elle est imputable à l'apparition de ces petits outils connectés?
Alors en partie bien sûr, et puis surtout une chose, alors c'est ce que faisait Bison Futé il y a des années, mais qui est encore plus affiné aujourd'hui, c'est qu'on s'est analysé sur des journées comme celle-ci, à quel moment les pics de trafic vont être présents sur tel ou tel tronçon. Alors c'est vrai que c'est toujours une vraie problématique pour les personnes qui partent en vacances, parce que comme vous le savez, on prend possession du logement qu'on a loué l'après-midi, donc ça nous oblige à partir le matin très tôt, ou parfois la veille, avec des temps en plus de route qui sont assez importants, n'oubliez pas les pauses toutes les 2 heures, c'est quand même quelque chose aussi à privilégier. Et donc par conséquent, c'est toutes ces prédictions qui permettent en effet aussi de fluidifier le trafic. Et on aurait aujourd'hui tout à fait la possibilité de considérer qu'on pourrait être dans des notions de bouchons encore moins importantes si l'ensemble des préconisations qui sont faites aux conducteurs automobiles et à leurs occupants étaient encore plus appliquées.
Alors moi je remarque, hein, quand j'enclenche mon petit outil connecté, on me propose souvent 3 trajets. Un autoroute, un mixte un peu entre les deux, et puis un sans autoroute. Mais finalement, l'offre de trajet, on ne me propose pas un itinéraire, celui que j'appelle l'itinéraire bis-bis. C'est-à-dire un itinéraire que personne ne prend, sur lequel il n'y a pas de bouchons, qui traverse la France par des villages magnifiques. Celui-là, on ne le propose pas. C'est un choix des systèmes de cartographie pour ne pas peut-être encombrer des petits villages ou c'est juste les paramètres qui sont définis comme tels.
Je pense que c'est en effet des paramètres qui sont définis comme tels et on a pris l'habitude en effet de délivrer 3 types de trajets. Ces 3 types de trajets, comme vous le disiez, sont en général autoroute, le plus rapide et un dernier qui va vous permettre en effet d'être sur les voies secondaires. Et je pense en effet que votre idée est bonne, Pierre, on va y réfléchir chez Good Angel, à avoir un itinéraire dit touristique qui permettrait dans ce cas-là d'avoir un temps de trajet qui soit un peu plus long, mais surtout plus apaisé.
Ben oui, parce que quand on a des enfants, l'ennemi, c'est les bouchons, hein. On est bien d'accord. L'itinéraire touristique, finalement, on a peut-être une bonne idée. Parce qu'en fait, votre outil Good Angel, lié à votre offre d'assurance d'ailleurs, propose aussi une cartographie, un système de navigation.
C'est ce que nous avons souhaité faire, c'est que pour proposer à nos jeunes conducteurs donc une assurance qui soit une tarification abordable, on leur a proposé un outil d'aide à la conduite. Cet outil d'aide à la conduite va leur permettre d'avoir une cartographie, d'avoir des services en temps réel, donc que ce soit les zones de danger, que ce soit le trafic, que ce soit la météo et bien d'autres choses encore, avec pour objectif de faciliter leur trame de trajet et en même temps leur donner un score de conduite, ce qui leur permet de pouvoir jauger comme ça leur trame de déplacement et l'ensemble des actions qu'ils vont mener pendant leur déplacement, avec pour objectif majeur pour nous de réduire la sinistralité, donc de protéger nos jeunes assurés, nos jeunes conducteurs, et puis de leur permettre d'avoir un outil pédagogique qui va continuer à parfaire leur formation une fois l'examen du permis de conduire en poche.
Carlos, une question. Cette data, cette donnée qui remonte de nous, automobilistes, finalement, c'est nous, les utilisateurs, qui faisons la réussite de ces systèmes. Qu'est-ce qu'elle devient, notre data, nos données? Est-ce qu'elle est anonymisée? Est-ce que, je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais est-ce qu'il y a derrière des gens qui sont en capacité de relever notre utilisation d'un outil d'aide à la conduite? Comment ça fonctionne, selon les opérateurs?
Alors pour ce qui est des data, bien sûr, elles sont remontées et utilisées. Donc, alors anonymisées, je dirais oui et non. Le plus grand acteur, celui qui est le plus connu aujourd'hui sur le marché, c'est Google avec Waze. Et Waze est un pur outil marketing. C'est-à-dire que Waze a enregistré vos habitudes de roulage, vos habitudes de consommation, parce que vous êtes arrêté dans un point de vente, dans une station de service avec une marque particulière, vous êtes arrêté dans un établissement de restauration rapide, et vous remarquerez que, étonnamment, quand vous êtes sur des zones qui ne sont pas habituelles, on va vous envoyer de la publicité sur Waze qui correspond en général à vos habitudes de consommation. Donc là, on utilise votre data. Alors certes, on vous met une application gratuite à disposition, mais oui, en effet, les profils d'éditeurs sont beaucoup plus importants que ce que vous lui offrez, vous, en lui donnant ces data. Donc, j'ai toujours considéré que vous êtes un consommateur, en quelque sorte, d'un service, mais vous n'êtes pas rémunéré pour l'ensemble des données que vous remontez. Et puis ensuite, il y a cette notion, en effet, d'anonymisation. On a les boîtiers qui arrivent dans les véhicules au début de l'année prochaine, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le sujet, mais en France, on a un organisme qui s'appelle la CNIL et qui va protéger vos données personnelles. Et donc, par conséquent, les données qui seront montées de ces boîtiers ou qui seront montées des autres applications de navigation ont un prérequis essentiel par rapport à la CNIL qui peut vous interdire à tout moment l'utilisation de votre dispositif, c'est l'anonymisation des données et surtout de ne pas utiliser les données sans consentement. Et ça, le consentement, c'est primordial et essentiel aujourd'hui.
On a d'autres opérateurs dont vous faites partie avec votre outil, hein, qui proposent justement une donnée non utilisée, non revendue à des marques privées. Est-ce que finalement la gratuité a aussi un prix lorsqu'il s'agit d'utiliser un outil d'aide à la conduite communicant? On a l'impression que le gratuit, eh bien, ça sous-entend que malheureusement derrière vos données est utilisée. Et en même temps, j'ai envie de dire, si vous avez un smartphone aujourd'hui et une carte de crédit, de toute façon vous n'êtes pas anonyme partout où vous circulez. Est-ce qu'il y a un risque à utiliser des applications dites gratuites?
Non, il n'y a pas de risque. La seule chose en effet, c'est que c'est quelque chose que je défends depuis des années, vous le savez, c'est que je considère que l'éditeur devrait en effet reverser une partie des revenus, parce que ces revenus sont aujourd'hui l'essentiel, lui, bien sûr, de la rentabilité de sa société, de l'ultra-rentabilité de sa société. Donc, il y a une question à se poser sur la notion du partage du revenu, qui devra se poser un jour, et un éditeur arrivera certainement un jour à mettre en œuvre ce genre de choses. Nous, chez Good Deal, qui est notre assurance jeune conducteur, on a considéré que la data qui remonte aujourd'hui, c'est surtout une data qui est faite pour envoyer des messages de prévention et de sécurité routière à nos utilisateurs, mais en même temps, on les amènera à la rentrée sur une marketplace, c'est-à-dire un site internet qui va leur permettre de récupérer des points, et au-delà de récupérer des points, de pouvoir utiliser un certain nombre d'avantages. Et dans ces avantages, il y aura de l'entretien pour le véhicule automobile, il y aura du contrôle technique avec des coûts encore plus attractifs, de l'essence, et bien d'autres choses, et également des tickets restaurants, des bons de réduction dans des chaînes de restaurants. Donc le principe, c'est de récompenser aussi les bons comportements.
Eh bien, alors que la France est à ras de la médaille d'or de judo par équipe, la revanche de Teddy Riner, eh bien, on va conclure ce Ça Roule en vous remerciant, Carlos, d'avoir été avec nous. Pour nous, eh bien, on se retrouve tout au long de l'été, tous les samedis entre midi et midi 30 pour vous faire partager un petit peu de connaissances comme ça autour de votre voiture. Cette semaine, c'était le GPS. La semaine prochaine, ce sera autre chose. Vous restez bien avec nous. Vous restez prudents sur les routes et vous pensez à notre conseil du jour si vous partez en vacances, à l'itinéraire bis-bis, c'est l'itinéraire touristique, comme l'appelle Carlos, souvent le meilleur et le plus goûteux. Allez, bonne route à tous. Merci Carlos d'avoir été avec nous.